I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. C'est toujours Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve une nouvelle fois pour parler d'une année de cinéma avec un invité. Merci d'abord de votre fidélité et bienvenue dans cette quatrième saison d'Année Lumière qui débute avec une émission très très spéciale puisque celle-ci a été enregistrée en public lors du festival La Colo Panique Cinéma qui s'est tenu début juillet au Forum des Images à Paris. Alors si vous ne connaissez pas Panique Cinéma, Marie, Yann et toute l'équipe de cette association organisent toute l'année des projections pas comme les autres, des rencontres et des événements exceptionnels qui sont toujours de grands moments de fête autour des films. Et ça a été un grand plaisir d'être invité lors de ce festival début juillet où se sont croisés Pio Marmaille, Eric Judor ou encore les collègues de Calmos et Monsieur Bobine et où j'ai pu présenter donc The Social Network de David Fincher avec Karim Debbache, l'occasion d'un mini-épisode en public qui permettait d'introduire le film mais aussi l'année 2010 dans laquelle il est sorti. Alors l'invité de cette année lumière était donc Karim Debbache, vidéaste, streamer notamment, créateur des émissions Crust et Chroma, mais également aussi scénariste de nombreuses vidéos du Joueur du Grenier sur YouTube. Voilà un épisode plus court que la normale, car on ne voulait pas en dire trop et gâcher le plaisir des spectateurs qui allaient découvrir le film. Mais j'espère que vous allez le trouver aussi intéressant que les autres. En tout cas, excellente écoute à vous, et on se retrouve à la fin.
Et on accueille donc le créateur, animateur de Année Lumière, le podcast, Thibaut Gomez-Léal, comme ici.
Bonsoir.
Et son invité ce soir, Karim Debbache.
C'est moi.
Et on va vous laisser vous mettre en place.
Merci beaucoup pour cette introduction. Et là, on va dire, on va faire un mini épisode pour présenter le film et aussi l'année dans laquelle il est sorti, c'est-à-dire 2010, qui est une année, on va le voir, passionnante à bien des égards.
Ouais. Et relativement récente par rapport à ce que tu as l'habitude de faire.
Tout à fait.
Parce que là, on a quelqu'un qui a fait 1934. Du coup.
C'est vrai que l'année 2010 est assez fun parce que je pense que ça a rappelé des souvenirs à pas mal de gens. Notamment effectivement ce qu'on faisait nous en 2010. Je te posais la question, Karim, toi, qu'est-ce que tu faisais en 2010? Tu faisais quoi? Tu étais où?
Alors 2010, c'est une année, j'ai plein d'anecdotes à raconter.
Ah, mais
sur
je t'en prie,
2010.
Je t'en prie.
2010, c'est une année, avant ça je travaillais dans le monde du cinéma, je travaillais dans l'audiovisuel, dans la post-production, et 2010 c'est l'année où j'ai quitté mon taf en fait, en me disant tiens, je vais faire autre chose. Avec, à ce moment-là, je ne savais pas trop quoi, en fait. Donc, je n'avais pas non encore l'idée de devenir un mec qui fait des vidéos sur Internet. Ça m'est venu plus.
Donc, Crust et Chroma n'étaient pas trop encore dans ton esprit?
Mais alors, un peu. Mais pas au point que ce soit un truc concret, etc. Mais je savais que j'avais envie de parler de cinéma de quelque manière que ce soit. Et j'ai une anecdote intéressante avec Social Network, d'ailleurs, si tu me lances là-dessus. Alors, en fait, donc 2010, je quitte mon taf autour de genre... alors, dommage, Gilles n'est pas là, parce qu'il a une meilleure mémoire que moi et on travaille ensemble. Mais genre, ça devait être en mai ou genre en avril, par là, quoi. Et alors, chômage. Meilleure période de ma vie, fantastique, chômage. Quand tu as travaillé longtemps, bah, tu as un peu de chômage, donc tu peux tenir comme ça pendant un moment. Et un peu d'argent de stock de mes années de travail. Donc, on va à Los Angeles avec Gilles.
Évidemment.
Ça a été le premier réflexe. On y va fin septembre, début octobre. On arrive, on fait un petit road trip autour de Los Angeles en Californie. Et on se retrouve dans la ville de Santa Barbara, comme la série... voilà, et à Santa Barbara, on voit que le dernier Fincher est déjà sorti là-bas, et le dernier Fincher, donc en octobre 2010, c'est The Social Network.
Et donc tu as vu The Social Network à Santa Barbara?
À Santa Barbara, dans une salle de cinéma.
C'est voilà. Quand même un super cadre pour voir The Social Network.
Absolument.
C'est quand même assez sublime. Alors, merci pour cette anecdote, Karim.
Attends, mais oui, mais ça, attends, mais elle continue.
elle continue.
Elle ne s'arrêtera jamais.
Mais
c'est qu'en fait, donc, c'était en VO non sous-titré. Et je me suis rendu compte d'un truc fantastique, c'est que j'ai tout compris à ce film. Et on en reparlera après quand on essaiera peut-être d'analyser un peu l'écriture du film.
Oui, parce qu'effectivement, c'est un débit un peu assez intense. Hein,
vous allez voir, pour les gens qui n'ont pas vu le film, vous allez voir, c'est un film où les gens parlent très vite. Et en fait, du coup, j'ai revu ça, j'étais pas complètement bilingue non plus, encore que j'ai une super note au bac. Mais je parlais correctement anglais, mais en fait, le fait de voir un film en VO non sous-titré avec des gens qui parlent très vite et que je comprenne tout, je me suis dit, putain, en fait, si jamais j'ai à m'exprimer publiquement avec mon débit de parole naturel, eh ben, je me dis, si moi j'ai pu comprendre ça, tout le monde peut comprendre moi qui parle vite.
Et c'est un bon test d'anglais raisons... finalement.
Oui, complètement. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, dans mes émissions après, je parle très vite. Et je n'essaie pas de freiner mon débit de parole juste parce que j'ai vu Social Network en VO non sous-titré et que je me suis dit, je comprends tout et les gens parlent très vite.
C'était un peu le Karim Debbache Origins.
Un petit peu.
Voilà, vous l'avez vu là, vous l'avez appris là. Merci beaucoup. Alors effectivement, avant de parler de Social Network, parce qu'on est quand même là pour ça, je vais mettre un petit contexte autour de ce film-là, et peut-être rappeler des souvenirs, hein, 2010, Souvenez-vous, en 2010, on écoutait ça. Alors on danse. C'était le premier album de Stromae, la révélation Stromae. C'était l'une des musiques de l'année. Je pourrais m'arrêter là.
Reprise par les Schtroumpfs. Alors, ah pour oui, ceux qui connaissent, dans l'album des Schtroumpfs, il y a vrai. Alors on Schtroumpf, qui est très similaire.
C'est vrai.
Ouais, ouais. Vraiment bien.
Et c'est drôle parce qu'on a fait, on a répété cette séquence juste avant. Et il y a une autre musique importante en 2010, et je pourrais vous laisser avec Alors on danse, mais je voulais vous partager une autre grande musique de cette année 2010. Et j'en suis un peu désolé par avance. On écoutait ça en 2010 aussi. Là, vous l'avez dans la tête toute la soirée.
En théorie, ouais. C'est terrible comme miroir. Moi, je te trouve un peu méchant avec Justin Bieber. Non. Je trouve que ce morceau, il est pop, il est jeune, il est frais. Et je l'ai beaucoup écouté et c'était très sympa. 2010, c'est aussi accessoirement l'année de sortie d'un de mes albums préférés de tous les temps, de hip-hop, parce que moi j'aime beaucoup le hip-hop. Et c'est l'année de sortie de My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, qui est un de mes albums préférés. Ah, comme ça, et qui avez... a relancé le rap dans les années 2010.
Comme ça, ils ont trois musiques différentes pour donner une teinte à cette année 2010.
Mais on n'a pas d'extrait de Kanye West, donc je devrais vous chanter non. si j'avais envie de.
Alors. Pour continuer à mettre un peu de contexte dans 2010, rappelez-vous, 2010, on va faire un petit trip to memory lane, comme on dit. 2010, c'est l'année de l'éruption du volcan islandais, souvenez-vous. Leilafallajökull.
Le film avec Danny Boone.
Oui. Voilà, exactement. Bah là, c'était cette année-là. C'était aussi l'année de la révolution, en moins fun, l'année de la révolution tunisienne qui va lancer, souvenez-vous, cette vague de ce qu'on appellera le printemps arabe plus tard.
Bien sûr.
C'était l'année aussi du premier iPad. Des séries The Walking Dead et Sherlock avec Benedict Cumberbatch, et aussi de la fin d'une autre grosse série, l'une des meilleures séries du monde pour moi, Lost. C'était la fin de la sixième saison et du tout dernier épisode. Je vois des gens qui font « pas ouf quand même Lost, pas ouf ». Ouais, non, moi je suis un Losty, je suis désolé. Et ce qui est drôle avec le film qu'on projette aujourd'hui, Social Network, c'est que c'est aussi l'année 2010, l'apparition d'un nouveau réseau social qui n'est pas Facebook. Qu'est-ce qui est sorti à votre avis en 2010 en réseau social que vous avez sans doute tous dans vos poches? Instagram, effectivement, Instagram qui est maintenant la propriété de Facebook et qui est sorti par un habile jeu de hasard, en tout cas une belle coïncidence, également en 2010. Alors on va parler de cinéma, puisqu'on est quand même là pour ça. Côté cinéma, les spectateurs, ils allaient voir quoi au cinéma?
Jackass 3D plusieurs fois au cinéma avec Gilles. C'était vraiment sympa.
Il y avait des gens aussi, qui n'arrivent pas.
Les gens n'allaient pas voir Jackass 3D? C'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Alors en fait non, mais je fais une semi-blague parce que c'est une blague parce qu'effectivement Jackass 3D c'est pas terrible alors que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est juste bon, tant pis. Mais par contre c'est l'ère de la 3D puisque l'année d'avant, fin Avatar. 2009 est sorti évidemment Avatar de James Cameron qui a lancé un petit peu qui a relancé la mode du cinéma en 3D. Voilà.
Donc c'est vrai qu'effectivement en 2010 on va voir plein de films en 3D. Ouais. On a parlé de films d'animation, on va avoir Toy Story 3, on va y avoir Dragon des studios DreamWorks, on va y avoir Réponse même des studios Disney. Ouais. Mais en 2010, vous souvenez-vous, vous alliez voir sans doute Black Swan de Darren Aronofsky ou Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton.
Et Inception.
Alors c'était un peu l'année où DiCaprio nous retournait un peu la tête. Parce que d'un côté, tu avais Inception avec cette maudite scène de toupie à la fin. Est-ce qu'elle tombe pas? Ça aussi, c'était un truc. Les cinéphiles, tout l'été, ont fait des théories à propos de ça. Et tu avais Shutter Island de Martin Scorsese la même année.
Absolument.
Donc ça, c'était plutôt pas mal. Tu avais aussi Harry Potter, la relique de la mort, partie 1, des choses comme ça. Donc voilà, tous ces films-là qui venaient compléter. Et évidemment aussi Social Network. Alors toi, au-delà de Social Network, tu as parlé de Jackass 3D, est-ce que tu as un autre film que tu aimerais qui te marque particulièrement?
Le chef-d'œuvre de 2010, Sexy Dance 3D était vraiment top. Il est sorti en plus vraiment en 2010.
On sent une fixation sur de la 3D.
Sur la 3D, ouais. Mais tu sais qu'en fait, on avait un pacte de la 3D avec mon ami Gilles Stella. On allait voir, à partir de la sortie de Voyage au centre de la Terre avec Brendan Fraser, quelques années auparavant, on s'est dit qu'on allait voir tous les films qui sortaient en 3D au cinéma. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Donc on s'est dit, ça va. Et au moment de la sortie de Sexy Dance 3D, on s'est dit, non, quand même, on ne va pas s'infliger Sexy Dance 3D. Donc on a brisé notre pacte de la 3D. Et en fait, ensuite, on a lu un article, genre, dans Télérama, qui disait que Sexy Dance 3D c'était un chef-d'œuvre et que c'était genre le nouveau Chantons sous la pluie. Voilà. Donc, c'était ça. Sinon, Inception, je l'ai retenu, mais en même temps, j'étais déjà dans mon truc un petit peu, ouais, Nolan, quand même, ça se la raconte un petit peu, donc j'étais pas non plus complètement à donf dedans. Bah, vraiment, moi, 2010, c'est Social Network. C'est le film, non seulement de l'année, mais je pense que c'est, et on en discutera peut-être un peu plus là, mais je pense que c'est le film de la décennie des années 2010, je le trouve. Ouais, je m'en bats les... Mais même autant que Mad Max.
Là, il y a des gens qui ne l'ont pas vu, tu es en train de mettre la barre très très haut. Là.
Ouais, non, mais je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. On peut discuter du pourquoi si
et
tu veux.
Et on va discuter, mais... effectivement, puisque Social Network, tu me tends une perche formidable. Effectivement, c'est donc aussi l'un des grands films de cette année 2010. Il sort, tu l'as dit, en octobre 2010 aux États-Unis. Film de David Fincher, donc Seven, Fight Club, Zodiac, Panic Room, tous ces films-là. Et donc, ça parle, c'est un biopic de la création de Facebook et surtout de son créateur, Mark Zuckerberg. Et c'est une adaptation d'un livre qui s'appelle La Revanche insolitaire, la véritable histoire du fondateur de Facebook, de Ben Mezrich, qui est donc publié un an avant, en juillet 2009. Donc ça, c'est assez intéressant, puisque il faut se dire que quand Fincher et son producteur et son scénariste Aaron Sorkin préparent le film, ils sont en train de récupérer les chapitres au même moment que le gars l'écrit, et ils sont en train de faire le film en parallèle de l'écriture du bouquin, parce que du coup, le film sort à peine un an après.
C'est même encore plus fou que ça, c'est que Sorkin faisait ses propres recherches sur l'histoire et écrivait le scénario en parallèle du roman, en fait. C'est même ça. C'est lui-même allé fouiller pour trouver des informations, etc.
On peut se poser la question, en quoi Social Network, c'est un film important, et en quoi c'est aussi un biopic pas comme les autres?
Déjà, ne serait-ce que parce qu'effectivement, c'est écrit donc, par Aaron Sorkin. Tu feras peut-être une petite bio de qui est Aaron Sorkin, mais c'est un immense scénariste qui est connu, surtout, je pense, pour à la Maison Blanche, mais aussi
à la Maison Blanche, The Newsroom. Il a fait aussi Le Stratège avec Brad Pitt. Il a écrit effectivement Le Stratège avec Brad Pitt aussi, qui est un film important.
Très grand scénariste et qui du coup là part sur. C'est un film qui ne se contente pas d'être juste un biopic où on va simplement, comme ça se faisait un peu traditionnellement, raconter l'arrivée au pouvoir ou l'arrivée en tout cas au succès d'un personnage lambda comme Zuckerberg. Là, c'est vraiment un truc. Il y a une forme d'expérimentation dans l'écriture et notamment dans le fait que c'est quelque chose de très. C'est un script qui est très complexe en fait, qui va mélanger plusieurs timelines. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour un biopic parce que c'est beaucoup plus sophistiqué en termes d'écriture que ce qu'on avait l'habitude de voir avant ça. Dans le sens où il y a trois timelines qui se produisent
qui s'entrecroisent, parallèle. Il y a trois temporalités, vous allez le voir, qui vont s'entrecroiser et qui se répondent un peu entre toutes les trois et qui, du coup, créent qui crée une fusion, un sens en plus qui donne tout son sel au film. Et moi, je complétais ce que tu dis là parce que effectivement, on se rend pas compte, mais en 2010, quand sort le film Social Network, c'est un film événement. Donc avant qu'effectivement Facebook ce soit le réseau social de nos darons, on était quand même en 2010 déjà tous sur Facebook. C'était quand même l'endroit où il fallait être, the place to be. Et quand sort le film, on est en plein dans cette nouvelle dynamique sociale qui est le réseau social qui va changer nos vies. Finalement, Facebook a impulsé ça. Et quand on fait un film là-dessus, on est encore en plein dans le cœur de la tempête, quoi. On est en plein dans le mouvement.
Absolument, parce que ça se passe du coup 3 ans après 2007, qui est donc l'année un petit peu charnière où l'internet shift et le moment où Facebook dépasse MySpace. Et donc on passe déjà dans un autre paradigme total où tout va devenir centralisé autour de ce truc-là. Et on comprend que on est très loin d'imaginer toutes les polémiques et tous les problèmes qui sont ensuite arrivés dans les années 2010.
Zuckerberg, il était cool encore à l'époque. C'était un peu
Zuckerberg était encore cool. Il était encore en mode c'est un start-upper, c'est un petit jeune, machin, etc. Donc il avait encore cette espèce de petit aura. On n'avait pas complètement pris conscience de tout le côté sordide de ce qu'il y avait derrière Facebook. Et en cela, le parti pris du film est très intéressant, puisque au-delà donc de la complexité de la narration que j'ai essayé d'exprimer, et que vous allez voir que c'est vraiment fantastique, il y a aussi le côté où c'est pas à charge contre Zuckerberg non plus tant que ça, mais c'est pas un truc qui est là pour te montrer que c'est un mec cool. À une époque où pourtant les gens pensaient que Zuckerberg était plutôt quelqu'un de cool. Quelqu'un qui va prendre le contre-pied en fait, Sorkin, de l'image qu'on peut avoir du petit start-upper de la Silicon Valley qui a From Rags to Riches, qui est devenu une superstar du capitalisme moderne, quoi. Ça va montrer une dimension, une espèce de face sombre du personnage de Zuckerberg, ce qui était assez cool en fait dans un biopic.
Oui, c'est vrai que c'est quand même déjà un film qui quand même lui montre que c'est quelqu'un qui a révolutionné énormément de choses, donc il y a une partie, comme tu le dis, positive déjà, mais il y a ce côté effectivement sombre qui vient donner un peu plus de densité au film. Et tu l'as dit, c'est donc un film écrit par Aaron Sorkin, mais c'est aussi et surtout peut-être un film de David Fincher, on va en parler. C'est d'ailleurs le cinquième plus gros succès de David Fincher, parce que c'est un film qui a coûté 40 millions de dollars et qui en rapportera plus de 225 millions. Donc c'est un film qui doit être derrière Gone Girl, Benjamin Button, The Girl with the Dragon Tattoo. Ça va être le cinquième meilleur succès, le plus gros succès de David Fincher. Donc c'est un film important pour Fincher. Toi, où est-ce que tu le situerais, Social Network, dans la carrière de Fincher? Est-ce que pour toi, il y a un avant et un après Social Network chez Fincher?
Alors pour moi, stylistiquement, l'avant et l'après, il se situe à son film d'avant, qui est Zodiac en 2007, du coup, où là, il y a vraiment un changement esthétique dans le cinéma de Fincher, où déjà, il découvre de façon assez brutale le cinéma numérique et il plonge à fond dedans. Donc ça, c'est vraiment Zodiac qui est l'instigateur de ça. D'ailleurs, Social Network comme Zodiac est tourné en Red One, qui sont les caméras qui étaient à l'époque très populaires, mais en même temps pas très chères pour tourner des films du cinéma numérique. Et aussi, en termes de ton, il y a quelque chose de beaucoup moins poseur et de beaucoup moins faiseur de belles images que ce qu'on pouvait voir dans des films comme Fight Club, Seven, etc. quoi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus... J'ai envie de dire académique, mais c'est pas ce que je pense vraiment, parce que c'est pas académique en fait la façon dont il filme. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus léché et beaucoup plus précis que ce qu'il avait l'habitude de faire avant. Il y a un côté punk un petit peu qui s'est assagi en fait dans cette deuxième partie du cinéma de Fincher. Donc est-ce que c'est un film charnière en termes de thématiques
On va en parler.
Un peu.
Moi j'ai une théorie sur les thématiques effectivement
ouais,
de
que je connais et je pense que tu as plutôt raison. Mais il y a la grosse fracture du cinéma de Fincher pour moi elle se fait avec Zodiac.
Ouais.
Mais donc sur
le du coup stylistiquement. Parce qu'effectivement j'avais une théorie. Il y a une grande phrase de Fincher qu'il dit dans un bonus de The Girl with the Dragon Tattoo. Il dit je pense que les gens sont des pervers et c'est l'une des fondations de mon cinéma. Et c'est vrai que quand on regarde ces films, effectivement, la perversion de l'être humain est assez récurrente. Et moi, je trouve que Social Network, et peut-être que vous allez le voir, vous allez peut-être effectivement aussi le sentir, avant Social Network, la perversion, elle vient de gens comme des serial killers, comme des anarchistes, comme des prisonniers. Donc dans des films comme Fight Club, Seven, même Zodiac. Donc la perversion, elle est du côté de gens, on va dire, socialement acceptés comme immoraux ou on va dire, voilà, peu nobles, on va dire. Et à partir de Social Network, Fincher va passer cette perversion du côté du couple marié dans Gone Girl, des politiques dans House of Cards, des gens d'Hollywood dans Mank, etc. Donc la perversion va changer, va faire un switch et va passer vers des hautes sphères et vers des gens qui socialement sont plus acceptés mais qui ne sont pas moins pervers. Je trouve que Social Network déjà nous dit à nous, le réseau social nous rend d'une certaine manière un peu pervers parce qu'on crée notre petit monde à nous, notre petit club dans lequel, surtout Facebook, dans lequel on fait rentrer qui on veut, ce qui du coup est aussi cette idée de perversion un peu particulière.
Mais c'est une théorie pertinente.
Merci, Karim.
Merci beaucoup. On peut parler un petit peu peut-être du fait que c'est une réussite. Parce que moi, c'est non seulement un de mes films préférés, mais c'est genre dans mon top 10. C'est mon Fincher préféré de loin. Non, peut-être pas de loin, mais c'est mon Fincher préféré, en tout cas, c'est sûr. C'est mon film préféré des années 2010, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec éventuellement Mad Max Fury Road. Mm-hmm. Quoi. Je trouve que c'est un monument absolument d'une justesse hallucinante. Et je trouve que ce qui est génial dans ce film-là, c'est qu'il... Il est très en avance, enfin, il résume très bien ce que seront les années 2010. Et il sort au tout début de cette décennie-là. Et je trouve que c'est le film le plus juste pour décrire ce que seront les années 2010. Quelque chose que même moi, à l'époque, je n'avais pas vraiment complètement identifié. Je pensais qu'encore, à ce moment-là, j'étais encore dans cette utopie d'Internet qui pouvait voilà, libérer les gens, machin, etc. Je n'avais pas compris la dimension sordide encore des réseaux sociaux. Et juste le fait, parce que là, il vous offre la jeunesse de Facebook, donc il vous offre comment ça s'est créé, pourquoi ça s'est créé et tout. Sans trop spoiler, on peut quand même dire que ça vient de frustration et de névrose, en fait. C'est ça le parti pris du film. Et du coup, en fait, cette frustration et cette névrose, est-ce que ça amène sur les gens, c'est quelque chose qui sera, je pense, en 2016, on a compris que Social Network avait compris des trucs que nous, on n'avait pas compris en 2010.
Tu dirais qu'il est encore d'actualité, il est toujours aussi pertinent 12 ans après.
Extrêmement
là
juste, oui, ouais. Aujourd'hui. Mais même plus qu'à l'époque. Genre, maintenant, il est vraiment genre, ah oui, d'accord, t'avais compris ça, quoi. T'avais compris qu'en fait, c'est. Si je continue sur ça, je vais spoiler en fait ce que vous allez voir, donc il ne faut pas que je le dise. Mais oui, je trouve que c'est un film qui est très en avance sur ce que ça montre.
Un film visionnaire, en tout cas passionnant. On va vous laisser effectivement profiter de Social Network de David Fincher tout de suite. Avant de vous laisser, je vais juste poser une dernière petite question. Pour information, en 2010, quand sort le film, il y a 600 millions de membres Facebook en 2010. On est en 2022, à votre avis, combien il y a de membres Facebook aujourd'hui sur Facebook? Pas loin, 2,9 milliards de gens de la Terre sont sur Facebook, sont des membres actifs de Facebook. Donc ça vous donne vraiment l'évolution de Facebook et à quel point, comme tu le dis, ce film a été visionnaire puisqu'il est arrivé au tout début. Ouais. Et tu avais d'ailleurs une anecdote par rapport à ça.
Oui, la personne, alors dont j'ai oublié le nom, mais qui a fait l'affiche du film, du coup, le designer qui a fait l'affiche du film, la tagline du film, c'est « On ne se fait pas 500 millions d'amis sans se faire quelques ennemis ». C'est à peu près ça, je le traduis de façon littérale et un peu absurde, mais c'est, en gros, c'est ça. Et en fait, ce chiffre, donc des 500 millions, c'est quelque chose qui a été pré-shot par la personne qui a fait l'affiche du film, puisqu'au moment où il a écrit cette tagline, on en était à 300 millions dans Facebook. Et en fait, il avait prévu qu'au moment où le film sortirait,
encore,
ils arrivaient à 500 millions, ouais. Ce qui était le cas d'ailleurs.
Ouais, voilà.
Et voilà. Et sinon, juste un truc, la bande originale du film est absolument fantastique. Elle est réalisée par Trent Reznor, qui est donc le chef de Nine Inch Nails, voilà, qui est un fantastique groupe que j'aime beaucoup et qui avait déjà travaillé avec Fincher, puisque le générique de Seven est un morceau de Nine Inch Nails qui s'appelle Closer, qui est une reprise en fait de Closer. You take me closer to God. Voilà, je le fais très mal, mais il le fait beaucoup mieux que moi. Et du coup, là, il revient et c'est aussi un nouveau souffle pour Trent Reznor et Atticus Ross, qui du coup font la bande originale du film et vont trouver un nouveau ton qu'ils vont ensuite pouvoir exprimer, notamment chez Fincher, dans des films comme Girl with a Dragon ouais. Tattoo, Gone Girl, etc. Mais aussi un peu partout, parce que maintenant, Trent Reznor, il a même fait la BO de Saul. Enfin, il fait plein de trucs maintenant, Trent Reznor, au cinéma, et c'est vraiment super.
Il gagne des Oscars avec ça.
Et il gagne des Oscars. Et c'est une bande originale fantastique qui est très proche de l'album précédent de Trent Reznor qu'il avait aussi fait avec Atticus Ross, qui s'appelle Ghost 124, qui est sorti, je crois, en 2008, si je dis pas de conneries, mais quelques années avant. On me fait un pouce en l'air dans la salle, donc ça veut dire que c'était effectivement 2008. Voilà, mais qui est un fantastique album aussi que je vous recommande.
Du coup, maintenant, les gens ont Justin Bieber et Nine Inch Nails dans la tête.
Ouais, regardez surtout Nine Inch Nails, même si moi j'ai rien contre Justin Bieber, mais Nine Inch Nails.
Moi non plus.
Je vous ai donné envie ou pas ?
Voilà. Voilà, passez une bonne séance de Social Network de David Fincher. Je vais laisser Yann prendre le relais. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère qu'on vous a donné
Merci
quelques
clés. Bon film, voilà. Karim.
Bon film.
Merci énormément à tous les deux. C'était dément. Et je suis dégoûté de ne pas pouvoir rester au film, là. Parce que j'ai juste qu'une seule envie, c'est de me le refaire tout de suite.
Ah ouais, je le regarde tous les ans depuis la sortie. Il est toujours fantastique.
Et vous avez fait tout ça sans boire, presque sans respirer d'une traite. Ben, vous êtes assez dément. Oh, putain, c'est une vitesse, là. Il n'y a plus rien. Et ben, très bonne projection et très belle soirée. Et peut-être demain. À bientôt.
Voilà, c'est la fin de cette première émission d'Année Lumière, saison 4. Un grand merci à Karim Debache, mais aussi à Marie Casabonne, Yann Lejars et toute l'équipe de Panique Cinéma, ainsi que Sylvain Perret. Merci aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. Et enfin à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'oubliez pas, si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez le faire même modestement via le site ou l'application Utip, U-T-I-P. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous.